Alors, ne vous étonnez pas du titre, qui est le même que l'étude biblique que mène Rémi en ce moment, La vie chrétienne normale. Je crois que c'est ça, hein, Rémi, comme ça. Mais ce titre s'applique vraiment au passage qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai repris le même titre. Donc, c'est Épître aux Éphésiens. Je suis toujours dans le chapitre 5. Et nous sommes arrivés au verset 6. Je vais lire ces versets du 6 au 22. Éphésiens 5, à partir du verset 6. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles: Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Jusque-là. Dans la dernière partie du chapitre 4, nous avions entendu Paul nous inciter dans plusieurs domaines à ne plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. C'était le verset 17 du chapitre 4. Rappelez-vous, au lieu du mensonge, la vérité. Une limitation à la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Au lieu du vol, le travail honnête pour pouvoir donner aux autres. Au lieu de se laisser aller à dire de mauvaises paroles, privilégiez des paroles empreintes de bonté. Au lieu de l'amertume, l'irritation, les éclats de voix et les insultes, et toute autre forme de méchanceté, la bonté et la compréhension les uns envers les autres et le pardon mutuel. Et Paul nous avait rappelé que quand nous nous laissons aller à ces travers, le premier attristé, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors, les quatre premiers versets de ce chapitre 5 que nous venons de lire parlent plus spécifiquement de l'immoralité sexuelle, des pratiques dégradantes, de la soif de posséder. Ces péchés sont assimilés par Paul au péché d'idolâtrie. Rappelons-nous que ce péché récurrent du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance a été la cause de manifestations redoutables de sa colère. Donc, 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Cette affirmation de Paul peut paraître surprenante, car partout ailleurs dans la Bible, le salut est présenté comme un don de Dieu qui ne peut pas se perdre. Mais écoutons ce que dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Première épître de Jean, au chapitre 1, verset 5. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Au verset 8, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Verset 10, si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et Jean ajoute au deuxième chapitre de son épître, au verset 1, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Cette fonction de défenseur, c'est justement ce que nous avons vu vendredi dans l'étude biblique. Nous sommes tous pécheurs, et nous le constatons expérimentalement dans nos vies. Nous le reconnaissons. Et quand il nous arrive de pécher, nous sommes malheureux et recherchons aussitôt le pardon auprès de notre Père Céleste en confessant notre péché, comptant avec foi sur l'intercession de Jésus, notre céleste avocat. Cette attitude est très différente de se livrer à l'immoralité, aux pratiques dégradantes et à la soif de posséder. Celui qui se livre ainsi à ses péchés comme son mode de vie ordinaire démontre par là qu'en réalité, et même s'il fait profession de christianisme, il n'est jamais passé par la nouvelle naissance. Il est dès lors tout à fait impensable que des hommes ou des femmes qui vivent ainsi est un quelconque héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, selon l'expression du verset 5. Verset 6. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ces discours sans valeur, ce sont des discours humains de toutes sortes. Politique, philosophique, discours d'une certaine morale dite libérée, même parfois des discours religieux, etc. Paul qualifie ces discours de « kénos » en grec, qui veut dire « vide », sans contenu, sans substance ou noyau de vérité. Le théologien Trench parle de sophisme et d'apologie du péché pour ces discours. Nous avons entendu de tels sophismes et apologies du péché, particulièrement dans le domaine de la sexualité, justement. Le dogme actuel, c'est « tout est permis » entre personnes adultes consentantes. Seule est condamnée la pédophilie, tout au moins pour l'instant. À l'occasion du décès du président Giscard d'Estaing, il a été rappelé que, à l'actif de son... de ce qu'il a fait, il y a eu la dépénalisation de l'adultère. Ouais. La dépénalisation de l'adultère, qui était donc pénalisée avant. Vous voyez que la Bible ne parle pas tout à fait de la même façon. Cela ne devrait pas nous étonner dans une société qui ne reconnaît pas la notion de péché devant Dieu comme envers le prochain. Alors l'apôtre prévient. C'est pour ces dérèglements que la colère de Dieu vient sur, littéralement, les fils de la désobéissance. Un hébraïsme pour désigner ceux qui mènent une vie de désobéissance à la volonté de Dieu, ici dans le domaine sexuel particulièrement. Alors au verset 7, l'apôtre Paul dit « Ne vous associez pas à ces gens-là. » Le mot utilisé par Paul, pour ne vous associez pas, c'est submétokos, signifie participant, partenaire, celui qui partage quelque chose avec un autre. Rappelons-nous la prière de Jésus à son Père en Jean 17, au verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Les ermites, et plus tard les moines, ont cherché, en se retirant du monde, à échapper à la tentation du péché. Les plus sincères d'entre eux ont reconnu avoir fait l'expérience que le péché étant en eux, en réalité, ils ne pouvaient pas vraiment y échapper. Dans tous les cas, la recommandation de l'apôtre est claire, ne pas s'associer aux gens qui vivent dans la débauche. Et dans les versets 8 à 10, Paul en donne la raison théologique. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Par notre nouvelle naissance, notre vie est liée à celle de Jésus-Christ. C'est ce que symbolise le baptême d'eau. Notre vie, que nous en soyons conscients ou non, est une vie dans la lumière, du fait même de notre union avec Jésus-Christ. Même lorsque nous tombons dans un péché, nous continuons à vivre dans la lumière, car nous nous en repentons aussitôt, et la communion, un court instant altérée, est rétablie avec celui auquel notre vie est liée. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Paul écrit en Philippiens 4, verset 8, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Nous sommes exhortés à nourrir nos pensées de ces bonnes choses. Soyons certains qu'elles participent au Seigneur. Au verset 11, ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Verset 12, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Verset 13, mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Donc, non seulement prohibition de toute participation, mais devoir de dénoncer. Ça, on n'aime pas bien. Car on sait que cela comporte des risques. Risque de paraître ridicule et vieux jeu, voire même risque juridique au nom du sacro-saint principe de laïcité et de liberté. Nos concitoyens ont la liberté de vivre comme ils veulent. Critiquer ceux qui, dans leur conduite, offensent Dieu peut nous exposer à de sérieux problèmes. Pourtant, c'est bien l'ordre que Paul adresse dans ce qu'on vient de lire, démasquez-les. Le verbe qu'utilise Paul, c'est eleggo, qui signifie porter à la lumière, exposer, révéler les choses cachées, convaincre, persuader. Il ne s'agit donc pas d'une dénonciation du haut de notre tour d'ivoire, mais ayant pour but non seulement de mettre en évidence ce qui dans ses comportements ne plaît pas à Dieu, mais même d'amener, si possible, la personne à la repentance. Et c'est ce que semble dire Paul dans le verset 14. Je suis un peu en retard dans mes diapositives. Oui, voilà. Or, voilà ce qu'il dit au verset 14, « Ce qui paraît à la lumière est lumière. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Littéralement, tout ce qui est rendu visible, manifesté, montré avec évidence, est lumière. La concision du style de Paul rend difficile la compréhension de ce qu'il veut dire par là. Alors, je vous donne l'explication qu'en donne John Stott, le théologien anglais, décédé il y a peu d'années. Cela pourrait signifier que les chrétiens qui mènent une vie juste et droite réfrènent, réforment, voire amènent à la conversion ceux qui pratiquent le mal. Sous les rayons de leur lumière, ce qui est éclairé devient soudain lumière, comme les Éphésiens eux-mêmes sont lumière. Si notre analyse est juste, dit John Stott, alors Paul est parvenu au sommet de son raisonnement sur la lumière et les ténèbres. Dénoncer correspond à la partie négative de la lumière. Elle révèle les turpitudes des hommes dans leur réalité, dignes du jugement et de la condamnation. Mais la lumière exerce aussi un pouvoir positif. La lumière, en quelque sorte, la lumière d'une âme, allume une autre lumière. Car en amenant au grand jour le caractère affreux du mal, la lumière peut conduire les hommes à la conviction de péché, à la repentance et à la foi en Jésus. Voilà donc comment opère la lumière, reflétée par les chrétiens dans leur environnement de ténèbres. Elle rend visible ce qui est caché et a la capacité même de créer la lumière. Deuxième partie du verset 14, Paul termine son exhortation à vivre dans la lumière par une citation qu'on ne trouve pas, au moins textuellement, dans l'Écriture. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. » Certains commentateurs de ce passage pensent que Paul cite là les paroles d'un cantique de l'Église primitive. Il serait basé sur Ésaïe 60, qui, il faut reconnaître, dit presque la même chose. Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Vous voyez la similitude par rapport à ce texte qui n'est pas textuellement dans l'Ancien Testament, mais qui est peut-être un ancien cantique du premier siècle. À la lumière de la Nouvelle Alliance et du salut en Jésus-Christ, ces paroles décrivent notre ancienne condition comme fils d'Adam en termes de sommeil, de mort et de ténèbres, toutes choses dont Christ nous a affranchis. Et de fait, la conversion au Christ n'est rien moins qu'un réveil, une résurrection d'entre les morts et le passage des ténèbres à la lumière de Christ. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, verset 9, décrit la conversion en des termes semblables. 1 Pierre 2, verset 9. « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses, écoutez bien, de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Versets 15 et 16, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Paul, dans cette épître aux Éphésiens, n'a pas cessé de les exhorter, et à travers les Éphésiens, il nous exhorte nous-mêmes, à veiller avec soin sur leur marche chrétienne. Non comme des insensés, mais comme des gens sensés, c'est-à-dire sages. Et là, il l'applique à deux domaines. Premièrement, les sages emploient bien leur temps. Ils mettent à profit les occasions qui se présentent à eux, car les jours sont mauvais. Le Seigneur nous donne un certain temps à vivre sur cette terre. Temps dont nous ne connaissons pas la durée, et que nous passons dans l'ambiance de ce monde qui est imprégné par des influences diaboliques, ces jours mauvais. Notre responsabilité est de bien employer ce temps, à ne pas perdre de temps, car nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. En réalité, nous ne disposons même que de l'instant présent. Telle est notre condition d'homme et de femme subissant les conséquences de la chute. Dans ce temps qui nous est donné, nous avons la possibilité de glorifier le Seigneur par notre vie et par notre adoration, comme ce matin, mais aussi de témoigner autour de nous de qui il est et de l'incomparable bonheur de lui appartenir. Deuxième chose qui caractérise les sages, à l'inverse des insensés. Les sages discernent quelle est la volonté de Dieu. Nous prions, comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus, en nous enseignant à prier ainsi, avait en vue un vague vœu pieux totalement extérieur à notre comportement. En ce qui concerne l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans le ciel, dans cette sphère où se déroulent des combats spirituels, entre les puissances et autorités célestes, bonnes et mauvaises, nous avons, je pense, un rôle à jouer avec l'arme de la prière. Ne sous-estimons pas son efficacité. Les puissances spirituelles de méchanceté sont à l'origine des comportements mauvais des hommes et de leur gouvernement, par exemple de ceux qui opèrent une véritable persécution d'État envers les chrétiens. En ce qui concerne l'accomplissement de la volonté du Seigneur sur la terre, nous disposons de la même arme, mais pas seulement. Nous pouvons agir chacun dans notre sphère d'influence avec le secours du Saint-Esprit, directement par nos actions, notre mode de vie, nos paroles, notre bulletin de vote, etc. Maintenant, Paul va décrire ce qu'est la vie chrétienne dirigée par le Saint-Esprit. Au verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Et là, Paul va maintenant nous donner une série de domaines où la direction du Saint-Esprit devrait être souveraine dans nos vies. Ce sont les versets 18 à 20. Une vie remplie de l'Esprit se traduit par une louange permanente de tout notre cœur, aidée par le chant de cantiques et de psaumes. De façon cocasse, Paul nous exhorte à rechercher cette plénitude, cette ivresse spirituelle, plutôt que l'ivresse alcoolique. Alors bien sûr, on ne peut pas passer tout notre temps à chanter, mais se remémorer dans nos cœurs, dans notre vie quotidienne ordinaire, les mélodies et surtout les paroles des cantiques que nous utilisons dans nos cultes est un bon moyen de rendre ce culte permanent auquel nous sommes appelés. À cette louange continuelle, ajoutons la reconnaissance pour tous les bienfaits du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour notre nourriture au moment de passer à table. Eh bien, c'est une excellente chose. À condition, bien sûr, de ne pas verser dans une routine vide. Autre fruit de cette vie par l'Esprit, au verset 21, la soumission mutuelle. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Cette soumission des uns aux autres, des enfants de Dieu, est une conséquence de notre crainte de Christ, c'est-à-dire de la reconnaissance de son autorité. Le mot soumission n'a pas bonne presse dans notre monde, et même dans nos églises. Paul va en donner, dans les versets qui suivent, des applications dans plusieurs domaines pratiques où elle doit être observée. Pourquoi ? Par soumission à l'autorité de Christ. Eh bien, nous verrons ces domaines pratiques lors d'une prochaine prédication.